1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, deuxième émission d'avril, salut Ariane, salut Ghislain, comment
bonjour
allez-vous?
Bonjour Philippe.
Bon, Théo est aux manettes, ça pétarade et ça clignote, je sais pas ce qui lui arrive, mais il y en a dans tous les sens là.
Il se prend pour le 14 juillet.
Ça doit être ça. Deuxième émission où SLP parle du corps. La semaine dernière, on a parlé des sœurs de la perpétuelle indulgence. On a rencontré sœur Salem.
Surtout c'était, moi.
Surtout toi. Mais grâce à toi, on l'a rencontré un peu aussi. C'était très, très bien. Et cette semaine, on va parler du mouvement ACT UP, qui, pour le coup, là, a été un mouvement militant qui est né dans les années 80 et qui a été le premier peut-être à utiliser le corps, en le faire intervenir comme vecteur du militantisme.
Ça, c'est à l'échelle de ta propre mémoire, Philippe. Hein.
Exactement. Première bâche de la soirée, je suis ravi.
Voilà, écoute Ariane, aujourd'hui, elle a mangé un truc qui n'est pas passé, et voilà quoi.
Non, mais
donc
je veux dire,
tu commences bien l'émission.
Non, mais dans tous les mouvements, il y a eu des choses, sur que ce soit un code de couleur dans comment tu t'habilles, mettre une fleur à ta boutonnière, mettre un bonnet phrygien, ou voilà.
Tu as raison,
voir un bonnet frigide.
Arrête, je vais vomir.
Alors, on a quelques sons, mais peut-être qu'il faut représenter
ACT UP
et déjà expliquer comment c'est apparu en France. Alors, au printemps 87, alors qu'il vient d'apprendre sa séropositivité, Didier Lestrade, qui est journaliste à Guépier, Rolling Stone et à Libé aussi, se rend à New York et il est attiré par des affiches qu'il voit pour la première fois. Le nom du groupe, c'est ACT UP. Alors, affiche avec... en blanc, sur fond noir, surmonté d'un triangle rose, les mots
« silence equals death »,
ouais. En français « silence égale mort ». Il se rend à une des réunions publiques et de retour à Paris, il écrit les premiers articles sur ce qu'il a vu là-bas, sans fibre militante particulière. Mais cependant, il témoigne avec un certain espoir que cela pourrait donner des idées à des petits Français. Il retourne régulièrement à New York en 88, en 89 et découvre la ACT UP Touch, ou l'art d'aller trop loin pour faire aboutir les revendications. Avec l'aide de Pascal Loubet, qui est journaliste à Rock and Folk, il décide de lancer l'idée de la création d'un ACT UP français à l'occasion de la Gay Pride de juin 89. Les statuts de l'association sont déposés. À cette époque, le sida a déjà touché 10 000 personnes en France et sur un des premiers tracts d'ACT UP, on peut lire « Nous sommes pour un activisme radical, nous sommes lourds de haine ».
Ouais, ben je trouve que ça traduit bien, l'impression que j'avais à l'époque d'ACT UP.
Moi, ouais, j'ai quelques souvenirs aussi. C'est peut-être pour ça que voilà, je l'évoquais comme ça, parce que les premières apparitions qui ont été un peu médiatisées d'ACT UP, moi, ça a créé un vrai choc, parce que déjà, effectivement, c'était non pas forcément les premiers à parler du sida en France, mais en tous les cas, c'était les premiers à le faire de façon aussi revendicative et
retentissante
radicale.
Aussi.
Retentissante, ouais, c'est ça, parce qu'à l'époque, si tu te souviens, il y avait Ed et ACT UP, et voilà, Ed, c'était les gentils, et ACT UP, c'était les méchants, quoi,
c'est
ceux
ça.
Qui bousculent un peu trop les trucs, et c'était un peu ça. Mmh. On a un petit son.
On écoute un petit son alors.
Ouais. Non pas un petit son, mais un petit son. qui nous retrace.
C'est vrai qu'ACTOP n'a jamais fait dans la dentelle lors de ses mouvements de revendication. Cette association qui est née en France en 89, c'est-à-dire 2 ans après sa création aux États-Unis, a choisi un militantisme de rupture, fait d'actions spectaculaires et d'actes de provocation pour dire l'urgence de ceux et celles qui sont menacés de mort et qui parfois succombaient dans l'indifférence. 10 ans d'ACTOP retracés par Laurence de Cherf et Alain Locatio.
Un symbole dans la lutte contre le sida, la coiffure insolite de l'obélisque en 1993. ACT UP remplit son rôle, faire connaître à l'opinion publique la maladie. Né aux États-Unis, ACT UP arrive en France en 1989. Basé sur des apps, des actions éclairs, ACT UP s'attaque au laboratoire et même directement aux médecins. En 1992, procès du sang contaminé, du colorant rouge sang, les militants prennent pour cible les membres du Centre National de Transfusion Sanguine. 4 ans plus tard, nouvelle action contre le projet de traitement par tirage au sort des malades soignés par trithérapie. La même année, le deuxième site d'action qui récolte des fonds pour la recherche sur le sida subit de plein fouet la critique du président d'ACT UP. L'opération récolte presque 5 fois moins que la première édition. Christophe Marté avoue ne pas avoir calculé cette colère-là. Les actions virulentes d'ACT UP semblaient pourtant nécessaires aux militants face à l'urgence.
ACT UP, c'est une machine de guerre, donc comme une armée, c'était très structuré, il y avait une préparation des manifestations, des actions, il y avait plusieurs réunions par semaine pour définir quelles cibles, comment, pourquoi cette fois-ci on utilise du sang, pourquoi cette fois-ci on utilise des cendres, qui est-ce qu'on va cibler, comment on va parler aux médias.
10 ans après, moins d'actions, un nouveau visage pour l'association avec à sa tête une présidente. Ni homosexuelle, ni séropositive. La guerre est aujourd'hui déclarée à l'industrie pharmaceutique. Même si les militants sont aujourd'hui moins nombreux, le combat, lui, demeure toujours le même.
C'est intéressant, en fait, cette petite histoire résumée d'ACT UP, parce qu'on voit... On voit plein de choses par rapport au sida et à la façon dont c'était perçu à l'époque et l'importance de leur action et l'importance de leur forme d'action aussi. Ces actions coup de poing, ce silence égale mort, ça c'était vachement important et de le dire et de secouer un peu les bien-pensants ou les idées un peu bizarres,
comme ce
tirage au sort là, qui était.
Et c'est vrai que c'est en ça que, alors je sais pas si on peut dire qu'ils s'opposaient à AIDS, c'est pas forcément qu'ils s'opposaient, mais je pense qu'il y avait peut-être nécessité d'avoir une sorte de d'autres propositions que celle de Ed, qui était plus effectivement bien pensante, plus policée en tous les cas,
qui était plus on va dire peut-être pas policée, mais en tout cas plus collaborationniste, on va dire.
Oh, bah dis donc.
C'est-à-dire que ils allaient plus dans le sens du poil ce qui pouvait se faire, alors que ACT UP était plus dans la dénonciation justement de silence criminel.
Je voudrais lire, là j'ai une petite profession de foi qui a été écrite par un des membres d'ACT UP à l'époque, où il parle en gros d'énergie organique. Nous, femmes et hommes, militants, séropositifs, séronégatifs, hétéro, homo, bi, trans, nous nous sommes engagés au sein d'ACT UP Paris depuis de nombreuses années. C'est avec notre corps que nous militons, nos corps abîmés pour certains, corps blessés, nos corps mis en avant dans l'action publique, nos corps rassemblés par les manifestations, les rassemblements et toutes nos réunions. C'est à travers nos corps et l'image de celui-ci mis en scène que réside notre force. Nos corps qui nous échappent parfois, de malades en survie précaire, jusqu'en 1995. Nous sommes devenus des survivants, marqués par des effets secondaires, des traitements. Dans cette société de la performance, nous tenons tête grâce à de multiples artifices, des parades que nous mettons en place car nous n'abdiquerons jamais. C'est parce que le sida affecte nos corps et celui de nos amis que nous sommes entrés à ACT UP et que nous y militons. C'est en mettant en jeu notre corps que nous avons inventé et produisons une autre politique de lutte contre le sida.
Ben voilà, tout est dit, je crois, non ?
Ben ouais, avec une fréquence de répétition du mot « corps » qui sied bien au sujet de notre thème du mois, n'est-ce pas ?
C'est pour ça que je dis plus rien, maintenant j'attends la pause musicale, moi.
Eh ben, pause musicale, alors. Alors ça sonne très années 80, mais ça a été fait hier.
Ah ouais? T'as fait ça tout seul chez toi?
Ouais, avec mes petits doigts et tout, ma petite voix.
Avec GarageBand sur son Mac.
Yes. Ou The Strokes, One Way Trigger. On continue à parler d'ACT UP?
On continue à parler d'ACT UP, sans problème, et de leur façon provocante de secouer le cocotier.
Et donc, une des actions un peu mémorables, ça se passe... Enfin, alors, une première action mémorable que tu vas nous présenter là, c'est à Notre-Dame. C'est fou, Notre-Dame, en fait, a un pouvoir d'attraction pour les groupes un peu militants... radical. Ben,
en fait, Notre-Dame, c'est l'endroit, on va dire, le plus emblématique du catholicisme français, le plus connu, on va dire, un des monuments les plus visités de Paris, etc. Donc c'est normal que ça concentre, en fait, quand tu veux dénoncer quelque chose par rapport au catholicisme en France, que tu ailles à Notre-Dame.
Oui,
quoi.
Et puis en plus, ça pose vraiment la question... Enfin, voilà, c'est un lieu qui est quand même vachement fort, parce que c'est classé patrimoine national, mais ça n'est pas désacralisé.
Exact.
C'est toujours en fonction, enfin, ça pose aussi la question de la séparation réelle de l'Église et de l'État au niveau des deniers publics et parce qu'on sait combien ça coûte quoi l'entretien d'un bâtiment pareil et ça, enfin voilà, quand il y a d'autres choses qui sont pas financées à une hauteur, voilà, ça pose des questions.
Ouais, bon. En tout cas, là, ce qui est intéressant avec les sons qui suivent, c'est de voir l'évolution. C'est-à-dire, on va écouter des sons. Le premier date de 1991. C'est une intervention d'ACT UP à Notre-Dame pendant la messe.
Pendant la messe ?
Pendant la messe. Il recule devant rien.
Oh, pendant la messe.
Manifestation devant Notre-Dame ce matin à Paris. Une centaine de personnes ont perturbé la messe pour protester contre les prises de position de l'Église en matière de lutte contre le sida. Le rassemblement a été organisé par l'association ACT UP, une association qui fait beaucoup parler d'elle aux États-Unis et qui essaye de s'organiser en Europe. Agnès Poirier.
Slogan et bannière sur le parvis de Notre-Dame, c'est l'accueil réservé ce matin aux fidèles par les militants de l'association ACT UP. À l'index, l'Église et ses prises de position contre l'usage des préservatifs et l'homosexualité. Position criminelle soutient ACT UP à l'heure où 750 000 personnes sont déjà mortes du sida et des millions d'autres sont séropositives. Faire entendre sa voix, faire passer son message coûte que coûte. Les militants d'ACT UP n'hésiteront pas à interrompre le cours de la célébration. Le service de sécurité de Notre-Dame intervient. L'expulsion est rapide et musclée.
On a décidé qu'on ne pouvait plus supporter les positions de l'Église en ce qui concerne l'épidémie de sida. Je crois qu'il faut dire que l'Église en France est une entrave directe à la prévention. L'Église condamne le préservatif alors que c'est le seul moyen de sauver des vies à l'époque actuelle. Je crois que l'Église a une attitude très discriminatoire envers les séropositifs et les malades.
Absolument scandaleux.
C'est scandaleux, vraiment scandaleux, parce que si même dans une église on ne peut plus être tranquille, alors...
Vous savez ce que ces gens réclament ?
Je m'en fous complètement.
Les militants d'ACT UP entendaient aussi faire œuvre utile en distribuant gratuitement des préservatifs. Interpeller, choquer l'opinion peut-être, mais il s'agissait d'abord ce matin de briser le silence.
Intéressant ce reportage.
C'était
quand
même. C'était sur quelle chaîne ?
C'était Antenne 2 à l'époque.
Antenne 2.
Ouais. Mm-hmm. 91. Mm-hmm. 91. C'était intéressant, tu vois, même la conclusion du reportage et tout ça, qui est quand même assez bienveillant, en tout cas, qui a compris le message.
Qui a bien compris le message, ouais.
Et qui le relaie de façon...
Il s'agissait de briser le silence.
Voilà.
Silence égale mort, je rappelle. Hein.
Mm-hmm. Voilà. Le préservatif, c'est la vie, l'Église, l'interdit. Enfin, tu vois, et même ce que dit le président de l'époque, Louis Velet, qui est assez, je dirais, assez violent quoi, dans son propos contre l'Église.
Heureusement, l'Église a beaucoup changé depuis. Hein.
Eh bien...
Il est un peu jaune, notre rire.
Ben, justement, on va avancer, on va faire un bond de 14 ans. Ouais. Et on va se retrouver en 2005. 2005, c'est les noces de coton du mariage de Bègle, le premier mariage gay de France. Et donc, ACT UP a décidé de fêter ces noces de coton à Notre-Dame.
Il retourne à Notre-Dame.
Ah bah ouais, il retourne à Notre-Dame.
Non mais rassure-moi, pas pendant la messe quand même.
Eh bah si, même qu'ils vont faire un petit mariage.
Un petit happening.
Un mariage, ils vont marier deux filles.
Oh.
Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir le changement dans le traitement journalistique et le changement dans la réaction de l'Église.
On écoute.
À présent, cette nouvelle provocation d'Act Up pour célébrer le premier anniversaire du mariage gay de Bègle, les militants ont organisé une parodie de mariage entre homosexuels en l'église Notre-Dame de Paris à la fin de la messe ce matin. Pour l'église, il s'agit d'une profanation et la situation a rapidement dégénéré. Alexandre Agarde, Philippe Hernando.
Hurlements, bousculades, violences. Il est 13h lorsqu'une vingtaine de militants d'Act Up envahit par surprise la cathédrale Notre-Dame. La messe dominicale est en pleine célébration. Une profanation pour le recteur qui s'empresse avec le service d'ordre de repousser les intrus. Mais la violence s'envenime et l'archiprêtre est légèrement blessé.
J'étais passé à tabac, j'ai voulu enlever une banderole. Passé à tabac, mis à terre, reçu le coup du lapin, j'ai perdu connaissance quelques minutes. On est tranquille, on célèbre la messe le dimanche, et dans une cathédrale qui est un lieu public certes, mais qui est un lieu de culte surtout. Et c'est important de continuer d'être dans la paix, pour prier pour justement la paix des gens, pour prier pour plus d'amour et de justice.
Je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez procéder à l'échange des anneaux. Vous pouvez vous embrasser.
Avant l'échauffourée, le président d'Act Up, déguisé en prêtre, a eu le temps de célébrer une parodie de mariage entre deux femmes, Rachel et Louis. Un simulacre organisé pour fêter les noces de coton du premier couple homosexuel marié à Bègle il y a un an. Un blasphème et un sacrilège pour les catholiques.
Ces actions spectaculaires, elles visent à alerter les personnes, alerter les gens, et notamment les catholiques, qui doivent vraiment se rendre compte que leur pape dans leur religion est infaillible. Si donc le pape condamne l'homosexualité, ça veut dire que chaque catholique est d'accord avec ça.
Visiblement choqué et très remonté, l'archiprêtre se réserve ce soir le droit de porter plainte.
Ouais, le traitement médiatique, même l'introduction et l'expression qui est répétée au sein du reportage de parodie,
oui.
ça dit beaucoup déjà de... C'est pas juste péjoratif, quoi. C'est vraiment complètement dégradé puisque ça n'existe pas, quoi. C'est impossible. Alors que c'est après Bègle.
Et on parle de violence. On insiste beaucoup sur les violences, sur les échauffourées. Il y a un truc d'ailleurs très rigolo. La journaliste dit que l'archiprêtre, il est légèrement blessé. Et lui, on le sent qu'on entend juste après. Il enchaîne sur « J'ai été passé à tabac. Je me suis même évanoui. » Alors qu'en fait, il est légèrement blessé.
Mais c'est tu sais quel est le vrai nom de l'archiprêtre, hein ?
C'est Christine Boutin.
Mais bien sûr.
Comme quoi, elle n'a rien inventé, en fait. Non mais c'est très intéressant en fait de voir comment les choses sont reçues à 14 ans d'écart et en 2005 c'est proche de nous quand même et de voir l'évolution des médias et l'évolution de l'Église aussi.
Alors ce qui est étonnant quand même c'est que effectivement entre leur première intervention, alors est-ce que l'effet de surprise a joué peut-être et la dernière qu'on vient d'entendre 2005. Ils sont beaucoup, effectivement, le traitement médiatique est beaucoup plus dur, beaucoup plus...
C'est la même chaîne. Hein.
C'est la même chaîne ?
Ouais, ouais, ouais.
Donc, on ne peut pas, effectivement...
Mais ça s'appelle plus pareil.
Non, exact. Ce qui est étonnant, c'est que, mine de rien, dans cet intervalle, Act Up a joué un vrai rôle en France au niveau du militantisme. Donc, a quand même une certaine notoriété, une certaine reconnaissance. Mais en fait, leur perception... en tous les cas, là, le rendu médiatique qui en est fait, c'est vraiment quelque chose de dérangeant, ouais. De perturbant. Ouais, y a les termes qui sont utilisés, c'est simulacre, blasphème. Ouais.
Mais en fait, tu sais, il y a eu un truc... Je ne sais pas si tu te souviens du deuxième SIDAction et de l'intervention du président d'Act Up qui avait piqué une grosse colère, on en a entendu dans le premier
c'était
son.
C'était Clouse-Vellet
Je ne sais plus si c'était lui ou si c'était...
Parce que moi, je me souviens déjà de plusieurs interventions, je sais qu'à deux ou trois reprises, ils ont fait des trucs, effectivement, qui ont un peu... Mais il y a eu notamment un site d'action où...
Un site d'action où, en fait... en fait, on leur a tout à coup reproché leur intervention violente qui avait fait baisser les dons de 5 fois, je crois, quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, c'était vraiment un tournant. Je trouve qu'avant, on disait, bon, c'est des actions provocantes, mais ça peut servir. Mais à partir de là, ils étaient vraiment complètement... c'était plus exactement la même perception.
Mmh. Comme un retournement de perception suite à un événement où on a considéré que peut-être là, ils étaient allés trop loin.
Ouais, ils étaient allés trop loin. Alors que c'était une colère qui était encore une fois justifiée par rapport à ce qu'ils disaient, tu vois, à ce qu'ils dénonçaient.
Donc, intervention intempestive
de ACT UP. On a été hackés par ACT UP.
Non, c'était Arto.
Alors, l'espace médiatique occupé par ACT UP aujourd'hui, de mon point de vue, il est moindre. Alors, peut-être que c'est ma propre perception. Je ne sais pas ce que tu en penses,
Dis que c'est un problème de traitement médiatique parce que cette action de 2005, j'en ai aucun souvenir. Alors que là, c'est plus parce que j'avais 12 ans. Hein. Mm-hmm. Mais d'ailleurs, la capote sur l'obélisque, je m'en souviens. Mais cette action dans Notre-Dame, j'en ai aucun souvenir, alors qu'il me semble que c'est une période où j'avais encore la télé. Et moi, je suis toujours... aujourd'hui, quand il y a des événements qui touchent toute cette frange de la population, tout le temps, quoi. Quand il se passe des choses et que je tombe sur des communiqués de presse d'ACT UP, le propos me fait du bien, quoi, parce que justement, il y a une espèce de regard frontal et de franchise, quoi, sur les enjeux vitaux, quoi, sur ce que ça signifie dans la vie quotidienne des gens, les nouvelles dispositions légales sur les droits du séjour ou ceci ou cela. Enfin, il y a plein de choses qui touchent à la vie quotidienne des gens. Et moi, je suis toujours séduite, quoi, par la façon dont c'est présenté dans la façon de communiquer d'ACT UP, parce que voilà, là, on arrive à des choses hyper concrètes, compréhensibles par tout un chacun, et avec des formulations inclusives, transpédéguines, intergenderfucker, intersexe, ce que tu veux, voilà.
Mais donc, peut-être moins bien relayé.
Voilà, moi je pense que c'est surtout sur le traitement médiatique qu'il y avait eu déjà en 2005 et depuis. C'est vrai que quand on présente les actions d'ACT UP, quand ils sont allés déverser de l'encre devant je sais plus quel QG de campagne, ils sont traités, c'était traité comme si c'était des dégradations dans l'espace public, alors que c'était des choses déversées au sol, c'était pas des polluants, voilà.
Ouais, bien sûr.
Mais voilà, c'est le traitement médiatique. C'est vraiment genre la petite racaille qui se fait chier, quoi. Je sais pas, quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'est pas du tout la portée aussi, peut-être au niveau image, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi une esthétique presque.
Oui, oui.
Dans les die-in, il y avait des prises de vue, il y avait... alors que c'est peut-être ça qui manque maintenant.
Mais c'est en même temps, on peut glisser sur la semaine prochaine.
Oui.
C'est aussi, parce qu'on va parler des Femen la semaine prochaine, et c'est aussi la critique qu'on fait aux Femen, c'est-à-dire des gens qui viennent perturber de façon gratuite et pas très intéressante. Tu vois, je trouve que ce traitement méprisant et... comme tu disais, racaille qui vient faire chier. On le retrouve aussi chez les Femen. C'est qui tient peut-être au mode d'action.
Mais peut-être non, qu'ils ont un peu...
Pour moi, ça tient à l'acquisition de l'espace médiatique, à la conservation de l'ordre établi.
Oui, c'est... Oui, bien sûr. Oui.
Mais est-ce que, justement, ils n'ont pas laissé un peu de côté ce genre d'intervention très...
Non, il déverse du sang. Là, par exemple, pour le mariage pour tous, quand Georgina Dufoy, qui est donc PS, est allée à la manif, a dit qu'elle soutenait la manif pour tous, ils ont balancé de l'encre rouge pour rappeler quand même qu'elle était dans l'histoire du sang contaminé.
Exact.
Et ils font des trucs avec Christine Boutin aussi à chaque fois qu'elle intervient. Enfin,
elle n'a pas trop besoin d'aide, hein, Christine Boutin.
Non, elle s'act-upte toute seule très bien.
Bon, ça sera le mot de la fin. Et effectivement, la semaine prochaine, on parle des Femen. Au revoir.
À la semaine prochaine.